Bonjour, je vais commencer. Bienvenue à la troisième conférence qui concerne aujourd'hui la médecine et la formation médicale dans les dits édiliciens. Les dits édiliciens réglementa le commerce des res mancipi en offrant des remèdes aux acheteurs, aux acheteurs d'esclaves, à qui le vendeur n'ont pas informé de tous les maux et les défauts latents. En réalité, l'édit offrait un outil commercial pour la répartition des risques concernant les transactions courantes d'un produit important. L'édit édilicien fut introduit dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais la formation de l'édit, telle qu'il apparaît dans le digeste, se fut fortement appuyée sur la nosologie et la taxonomie qui proviennent de la médecine grecque. En outre, et comme on le verra plus loin, sa mise en œuvre n'aurait pu pas être entreprise sans faire allusion aux experts médico-légaux. En fait, l'édit fournit la première définition légale d'une maladie. De même, l'édit édilicien établit une distinction claire entre les maladies physiques et les troubles mentaux. En termes plus généraux, cette conférence est une analyse des relations réciproques entre l'administration formelle de la justice et d'autres disciplines professionnelles et comment des disciplines extérieures pourraient valider le système judiciaire et être validées par lui. Un tel examen des relations dialectiques entre les droits positifs et la médecine pourrait également éclairer la manière dont l'économie romaine et sa jurisprudence s'influencent mutuellement. Il révélera la grille de pouvoir qui définit et marqua la frontière du pouvoir judiciaire. L'objet de cette conférence est d'examiner les interrelations entre le développement du droit positif et de la médecine en se concernant sur les dits édiliciens dans le contexte du marché romain. Malgré ce que l'étymologie de leur nom pourrait suggérer, les dits étaient à l'origine des assistants du tribun qui leur confièrent le pouvoir judiciaire. Les dits curules qui émit l'édile édilicien, fut un établissement ultérieur, très probablement une conséquence des troubles civils qui furent à l'origine de la législation de Licinius et Sextius à 376 avant Jésus-Christ. Une paire d'édiles curules maintenant égalait les plébiens. Les édiles publiaient des édits relatifs à leur domaine de compétences, qui comprenaient le marché, les jeux et la vente d'esclaves. L'édit discuté ici appartient à ces groupes. L'étude de la médecine et du contexte médical dans l'édit édilicien est précieuse à la fois en soi, car les esclaves et le commerce des esclaves constituaient des façades importantes de l'économie romaine. Et aussi, pour mieux comprendre l'évolution du droit positif en tant que processus dialectique avec d'autres disciplines. Comme j'ai dit, l'édit édilicien réglementa la vente d'esclaves sur le marché romain. Elle proposait aux acheteurs des mesures de sécurité contre les vendeurs frauduleux sous la forme d'une actio redhibitoria. Plus explicitement, l'édit prescrivait aux acheteurs 2 mois pour une actio redhibitoria et 6 mois pour une action en dommages et d'intérêts. En outre, l'édit édilicien prescrivit que les vendeurs des esclaves doivent informer les acheteurs des toutes maladies ou défauts de leurs marchandises. À défaut de répondre à ces demandes, l'édit ordonne aux édiles d'accorder une action en rescission à l'égard des esclaves. Selon l'édit, la dissimulation des maladies et des fous créa une fausse représentation de la valeur réelle de l'objet vendu, pouvant donner lieu à une action en justice. Cette injonction trouva un écho favorable dans le document papyrologique. Les dix diliciens visaient à réprimer ces qui devaient être un abus ordinaire d'une façade centrale du droit romain de la vente, qui reconnaissait la corde, et la corde sur l'objet et le prix comme seule condition préalable à la formation d'une obligation. À son tour, la formation d'un contract emptio venditio marque le moment où le risque associé à l'objet gravite du vendeur vers l'acheteur. Les dix diliciens excluent la vente du res mancipi de ce schéma général de répartition des risques dans les transactions de vente en soumettant le vendeur à un devoir de diligence et en offrant aux acheteurs un mécanisme de restitution en cas de fausse déclaration. L'édit que les édiles publièrent dans le cadre de leur responsabilité générale sur le marché romain remplit une lacune importante dans le droit romain du contrat et dans un environnement économique qui reposait fortement sur le travail en esclavage. Cependant, la formulation et la mise en œuvre de l'édit ne reposaient pas et ne pouvaient pas reposer exclusivement sur l'expertise judiciaire. Un caveat morbi viti démontrable s'appuyait sur une infrastructure de vocabulaire médical et d'expertise diagnostique. Son introduction et son élaboration ultérieure par le recours à l'interprétation des jurisprudentes démontrent l'existence de relations réciproques étroites entre la jurisprudence et la médecine et entre la pratique judiciaire et les experts médico-légaux. L'édit dilicien ne fait aucune distinction entre le droit privé et le droit pénal, car les affaires pertinentes peuvent et ne peuvent pas inclure le dolus malus. Bien que l'accusation de fraude soit plus grave, en termes de preuve de la maladie d'esclave au moment de la vente, il y a peu de différence entre une vente frauduleuse et une vente fondée sur l'ignorance. En tant qu'outil commercial, l'édit dilicien proposait un mécanisme de répartition des risques et non un moyen de déterminer le dolus malus. Les édiles supposaient que même si le vendeur ne savait pas, il pouvait et devait savoir. Dans les deux cas, fraude et ignorance, le risque résidait dans le vendeur. Même si la condition des esclaves s'est fût détériorée ou changée après la vente, en raison des actions du vendeur ou des membres de son ménage ou de son procureur, c'est le vendeur qui supporta la perte. Cependant, l'étendue de la maladie et de la faute dans le contexte de l'édit dilicien n'était pas illimitée. Elle ne s'appliquait que lorsque la maladie pouvait diminuer la productivité ou la valeur de l'esclave. Ces courants de pensée rappellent l'exclusion de la responsabilité acquiliente à l'égard d'une personne ayant castré un esclave d'autre personne, ce qui a fait augmenter ou du moins de ne pas perdre la valeur d'esclave et mis en évidence le sens de l'édit dilicien comme instrument de répartition du risque et non du res mancipi et non du dolus malus. L'édit dilicien n'interdisait pas la vente des esclaves malades ou imparfaits. Cependant, les maladies devaient être indiquées par leur nom. Les juristes supposèrent que le diagnostic et la nosologie peuvent être suffisamment claires. En fait, elle ne s'appliquait que si la maladie ou le défaut était latent. Si l'esclave présentait des signes de maladie, l'édit ne s'appliquait pas, car l'acheteur aurait dû être attentif sous la formule de caveat emptor, et, comme le droit romain de la vente permettait de vendre un esclave imparfait, en suivant une ligne directrice plus générale selon laquelle tout vent est valable lorsqu'on accorde et conclut concernant l'objet de la vente et que le prix est fixé. L'acheteur d'un esclave présentait des symptômes visibles de maladie ou de défaut doit avoir respecté les conditions convenues de la vente. Cette mise en garde doit avoir reposé sur une capacité de diagnostic généralisée de la part des acheteurs, une compétence tout aussi applicable pour démontrer les défauts latents et un vocabulaire technique avec lequel les désaccords auraient été résolus. Pour les besoins de l'édit, Ulpian proposant une définition de la maladie qu'il avait attribuée à Sabinus. L'autorité de Sabinus, à laquelle Ulpian se référa, révèle qu'au premier siècle de notre ère, le discours médical romain était sans équivoque hellénisé. Sabinus était un juriste éminent et dirigeant une école portant son nom. Il obtint un rang équestre sous Tibère, qui lui également accorda le ius respondendi. Ses travaux furent très appréciés par les juristes qui suivent, tels que Titius Aristo, Gaius, Pomponius, Ulpianus et Paulus, qui commentèrent sur ses travaux. En commentant l'édit d'Ilicien, Sabinus utilisa la terminologie d'Hippocrate, comme le grec phthisis pour consommation ou febris pour la fièvre. Sabinus ne dut pas rendre compte de son choix de champ sémantique, pas plus que le juriste qui, plus tard, se référa à ses travaux. Sabinus et les futurs juristes ne faisaient pas exception. Les auteurs romains utilisaient habituellement le vocabulaire médical grec dans leur ouvrage latin en translittérant, en traduisant ou en créant simplement des mots latins qui conservaient leur sens grec original. Les historiens de la médecine supposent qu'avant l'arrivée du vocabulaire médical grec, il n'existe pas de discours exclusivement destiné au domaine de la santé. Cette adoption du langage médical grec, donc, permit la mise en place d'une discipline professionnelle. Les philologues démontrent que les Romains utilisaient des termes médicaux d'origine grecque dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les travaux de Celsus sur la médecine montrent à quel point le monde romain connaissait la médecine grecque et son langage professionnel dès le premier siècle de notre ère. Le terme febris, par exemple, était utilisé par Caton, Gaius Lucilius, Plautus, Terentius, Accius, Cicero et d'autres. En fait, Aulus Cornelius Celsus discutait de la nature des symptômes et des complications possibles de la fébris dans plus de 60 passages dans son traité de Medicina du 1er siècle de notre ère. Ulpian, à la suite de Vivien, souligna que la salubrité, dans le contexte de l'édit d'Ilicien, concernait principalement le corps et non l'esprit. Si toutefois l'esclave souffrait d'un trouble mental causé par une maladie physique, le vendeur doit l'avoir révélé ou être susceptible d'une action en rescission. Ces maladies comprennent la fièvre, voire la mélancolie. La médecine grecque est très répandue ici. Les dommages cognitifs dus à une maladie étaient un thème commun dans la médecine grecque depuis le traité d'Hippocrate sur la maladie sacrée, bien que la médecine ancienne ne reconnaissait pas la psychiatrie comme une branche spéciale de la médecine. Les Hippocratiques et leurs successeurs associaient habituellement les symptômes mentaux à la fièvre ou à l'épilepsie. Les auteurs médicaux grecs ne se furent pas conformés à la nosologie et divisèrent les maladies mentales en trois groupes: phrénitis, mania et mélancolia. Cette nosologie et cette herméneutique furent acceptées, ainsi que d'autres aspects de la médecine, de sa pratique et de son organisation par les Romains à partir du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Celsus, un contemporain du juriste Sabinus, révéla dans son traité sur la médecine l'étendue de cette adaptation, et aussi Pline l'Ancien également attesta de l'acception de la médecine grecque dans le monde romain. L'édit soulève des questions importantes concernant le mode de fonctionnement de le tribunal. En fait, bien que le contenu de l'édit soit clair, sa mise en œuvre nécessita des outils de diagnostic et un vocabulaire technique correspondant. L'édit supposait que les édiles pouvaient remontrer à l'origine de la maladie d'un esclave avec suffisamment et de précision pour qu'un verdict soit rendu. Bien que l'assistance des témoins experts ne soit pas mentionnée, l'édit s'est approprié le vocabulaire médical grec. De même, la conclusion d'Ulpian, selon laquelle une femme esclave qui a continuellement produit des bébés morts-nés n'est pas malade que si ses organes génitaux sont déficients, doit avoir reposé sur des connaissances gynécologiques. L'explication selon laquelle la production des bébés morts-nés serait due à des organes génitaux défectueux trouve un écho dans les travaux de gynécologie grecque à partir d'Hippocrate. Ulpian n'ignora pas la gynécologie et ses possibles applications médico-légales. En fait, en cas de contestation de la maternité ou de la paternité, Ulpian indiqua que le tribunal s'appuierait sur l'expertise de sage-femme. Dans le contexte de l'édit idyllicien, Ulpian expliqua qu'une femme stérile n'était pas considérée comme malade à moins qu'elle ne souffre d'un défaut physique. Bien que la nature de ce défaut ne soit pas révélée, c'est la gynécologie qui aurait fourni les diagnostics, la nosologie et la taxonomie. Ulpian considère également que la question d'une personne qui mouille son lit est similaire, car une telle personne n'est considérée comme malade que si elle souffre d'une vessie défectueuse. Dans tous les cas, Ulpian clairement discerna les symptômes et leurs causes physiologiques. Il est peu probable qu'en cas de litige, les édiles ne soient pas appuyés sur un examen clinique. Paul, un contemporain d'Ulpian, accorda une action en vertu de l'édit idyllicien si le vendeur n'avait pas informé l'acheteur qu'une esclave vendue avait ses règles deux fois par mois ou si elle n'avait pas ses règles du tout. Un tel recours à la gynécologie devant un tribunal romain rappelle les excuses d'Apulée qui a expliqué la volonté de sa femme, Pudentilla, de l'épouser en utilisant des connaissances gynécologiques. L'apologie d'Apulée est un rare exemple du discours médico-légal intact en latin du Haut Empire romain. Apulée fut poursuivi devant le tribunal d'un proconsul romain chargé de la magia dans la deuxième partie du deuxième siècle de notre ère. Plus précisément, Apulée fut accusé d'avoir utilisé la magie pour persuader une riche veuve de l'épouser. Pour sa défense, Apulée appliqua des arguments médicaux expliquant pourquoi sa femme avait choisi de se remarier. L'authenticité de l'affaire et le succès d'Apulée offrent l'occasion d'examiner dans quelle mesure la cour était disposée à fournir ce type de preuves. Apulée expliqua que le désir de Pudentilla de prendre un second mari après la mort de son précédent était motivé par une douleur grave. La cause de la douleur était sa réticence à prendre un autre mari, ayant été marié auparavant. Plus précisément, Apulée expliqua qu'une longue vie de veuvage digne avait engrandi ses organes féminins. De plus, des longues années de solitude provoquèrent des graves blessures aux organes internes de Pudentilla, on suppose les organes féminins, mettant ainsi sa vie en danger. Selon Apulée, ce diagnostic a été confirmé par les médecins et les obstétriciens qui avertirent Pudentilla que cette douleur est due à son abstinence des relations conjugales, que la souffrance va s'accroître et que le seul remède est de prendre un mari. En fait, la défense d'Apulée trouve un appui dans les œuvres de son contemporain Galien. Le grand médecin expliquait que l'hystérie menaçait en particulier les veuves qui, auparavant, menaient une vie conjugale et étaient en âge de procréer, mais étaient contraintes au célibat alors qu'elles étaient encore en période de mensuration. La prévalence du vocabulaire médical et des stipulations à base médicale dans le vent d'esclaves est renforcée par les documents papyrologiques. Un nombre important de papyrus enregistrant la vente d'esclaves mentionne la responsabilité du vendeur en cas d'épaphée et d'hieranosos, une inclination d'esclave à s'enfuir, ou toute responsabilité noxale des esclaves vendus. Tous ces documents sont en accord avec les dits d'Illicien. Certains actes de vente comportent une clause de double achat, dupla emere, qui attribue à l'acheteur le double du prix sans convocation du tribunal, comme dans le cas de papyrus Turner numéro 22. Un autre, Giuseppe Camodeca, peut rétablir un modèle similaire à partir des preuves de Pompéi et Herculanéon. Cependant, une clause de double achat n'était pas obligatoire comme dans l'exemple de papyrus Strasbourg en 79 représente. Enfin, conformément à l'édit d'Illicien, la clause de garantie était limitée dans le temps. Ainsi, papyrus Euphratus numéro 6 où l'esclave était décrit dans la clause enregistrant l'acte de vente comme hugies et anepaphos, prescrivait 6 mois pour un acte rédhibitoire. Enfin, s'il était possible de vendre un esclave quel tel, donc avec une garantie plus étroite qu'elle prescrit par l'édit de Lucien, il semble que dans les cas d'épilepsie et de l'épaphée, la garantie était obligatoire. Cependant, il est impossible d'évaluer le rôle formateur de la médecine à la fois comme incitation à la formulation de l'édit de Lucien et de sa partie de mise en œuvre sans replacer l'édit dans le contexte du soin de santé institutionnel et ses implications médico-légales. Le soin de santé, sous la forme d'un service rendu par un membre qualifié d'un groupe professionnel, ne furent pas attestés dans le monde romain avant l'arrivée d'un médecin grec du nom d'Arhaga à 218 avant Jésus-Christ. Arhaga fut arrivé à Rome en provenance de Péloponnèse où il fut chaleureusement accueilli. La ville de Rome accorda à Arhaga la citoyenneté romaine et un cabinet médical situé à un endroit central et financé par les fonds publics. Ce modèle semble avoir suivi l'habitude grecque nommée en médecin public, demosios iatros. Et l'institution de médecin public était courante dans le monde grec où les villes et les royaumes nommaient un praticien de soins de santé pour une durée déterminée et sous le titre du médecin public. L'existence de cette institution, connue principalement par des inscriptions, n'est pas tout à fait claire, mais on suppose que le médecin élu devait résider dans la ville qu'il avait élue et y exercer. Cependant, ses devoirs envers les citoyens en général et les pauvres en particulier, tout comme les formes de sa rémunération, sont encore obscures. La rencontre entre le pouvoir romain et la culture grecque, en particulier à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, encouragea Rome à s'approprier de nombreuses facettes de la culture grecque, notamment la science et la médecine. De plus, l'attitude envers Arhaga et la décision formelle de lui accorder la citoyenneté romaine et des fonds publics suggère que Rome s'est approprié non seulement la discipline de la médecine grecque, mais aussi les modes sociaux et institutionnels de sa régulation. Arhaga ouvrit la voie à de nombreux médecins d'origine et de formation grecque qui émigrèrent à Rome. Cependant, ce n'est que sous la dictature de César que les droits romains s'adressaient aux médecins en général. Souhaitons enregistrer une décision du Sénat encourageant les médecins grecs à émigrer à Rome, en leur offrant la citoyenneté et l'immunité fiscale. Souhaitons ne pas révéler les motifs de César pour ce faire, mais on suppose que son motif était double. Obtenir des médecins disponibles pour la plèbe romaine dans le cadre d'une politique populaire globale et assurer la disponibilité du médecin pour le soin des légions de César. Augustus suivit les traces de César, profitant de l'occasion pour promouvoir son image publique de pater patriae. Augustus accorda à son médecin personnel, Antonius Musa, et à ses collègues présents et futurs, des privilèges et une immunité élaborée contre les liturgies. Les chercheurs divisent la raison d'être de ces bienfaits en deux catégories. La première, dans laquelle les médecins étaient inclus aux côtés d'autres professeurs des artes libérales, est formée la base d'une classe dirigeante civique en province à prédominance hellénistique, destinée à assurer la loyauté des élites locales au pouvoir romain et leurs besoins de pouvoir. Parmi les avantages pertinents, on peut citer les immunités contre les liturgies qui étaient imposées aux membres des élites locales. Le second visait à attirer des médecins pour un service dans la nouvelle armée impériale en tant que médecins militaires. Les médecins qui choisissaient une carrière militaire bénéficiaient, en plus des privilèges accordés à tous les médecins, des conditions de service lucratives. À l'époque de Jurius Sabinus, la médecine était déjà reconnue comme telle par les institutions romaines. Les médecins formaient une catégorie juridique. Dans le cadre de l'édit d'Illicien, la médecine et ses agents pouvaient proposer des outils de diagnostic, de nosologie et de taxonomie qui rendaient possible l'exécution de l'édit. Il reste à voir si la médecine a eu d'autres applications médico-légales. La reconnaissance du droit romain de la médecine en tant que discipline distincte et de ses praticiens en tant que membres d'une communauté professionnelle, ce qui est crucial pour le bien-être de la société dans son ensemble, a également signifié que la médecin était considérée comme des figures d'autorité dans les tribunaux romains. En fait, la juxtaposition des cas dans lesquels le tribunal s'est appuyé sur les experts médico-légaux pour résoudre des litiges factuels et ceux dans lesquels les médecins eux-mêmes revendiquaient une expertise privilégiée permettent d'avoir un rare aperçu des divergences entre la représentation interne d'une discipline et son acception par la société et ses institutions officielles. Les médecins revendiquaient une compétence dans trois domaines pertinents pour le tribunal. Et les décès suspects et les actes de violence, les litiges de maternité ou de paternité, et le fait d'être déclaré non compos mentis. Comme indiqué ci-dessus, ces trois domaines sont également pertinents pour l'édit idyllicien. Alors que le tribunal romain s'est fortement appuyé sur les médecins et les sages-femmes pour les deux premières, il était réticent à se tourner vers une autorité extérieure pour déterminer si un individu est compos mentis. Sur la base des preuves fournies par les papyri, il apparaît qu'en cas de violence, les tribunaux ordonnaient à un médecin public de procéder à un examen et de soumettre un rapport clinique au tribunal. Il en existe plus de 60. Il représente une image où le tribunal s'est appuyé sur les rapports médicaux comme élément de preuve. les tribunaux se sont appuyés sur l'expertise médicale pour résoudre une autre catégorie de litiges, celle des contestations de maternité ou de paternité. Ulpian mentionne un rescrit de Marcus Aurelius et Lucius Verus concernant un mari qui déclara que sa femme récemment divorcée était enceinte alors qu'elle le niait. Le rescrit ordonnait à Praetor de nommer trois sages-femmes compétentes et dignes de confiance qui examineraient la femme et rédigeraient un rapport. Au cas où elle conclurait que la femme est enceinte, le sage-femme devrait l'escorter jusqu'à le domicile d'une femme de caractère incontestable où elle aurait passé la période de sa grossesse. Les sages-femmes l'assisteraient alors pendant l'accouchement et concluerait si le père du nouveau-né et le mari divorcé de la femme. Un rescrit similaire porté sur le cas d'une femme affirmant qu'elle est enceinte de son défunt mari dont la famille le nia l'existence. Dont la famille le nia l'existence. Toutefois, malgré ces implications importantes et compte tenu du fait que certains pourraient feindre la folie pour échapper à la responsabilité de leurs actes illégaux, il n'existe aucune preuve que des médecins aient été consultés pour déterminer si une partie à un litige juridique est compos mentis, ni même que la médecine ait offert des moyens de diagnostic à cette fin. Il n'est donc pas improbable que les médecins aient été impliqués dans la résolution des actions diligentes, car il est clair que leur discipline a offert les infrastructures nécessaires à l'édit lui-même. Et quelques conclusions. L'édit dilicien fait écho à une longue tradition médicale d'origine grecque. Des interprétations ultérieures de l'édit ont employé une terminologie médicale technique et se sont appuyées sur des examens médico-légaux qu'un non-spécialiste ne pouvait pas effectuer. Il est prouvé que les médecins sont considérés comme des figures d'autorité dans les tribunaux romains, résolvant des litiges tels que les maladies, les blessures et l'anatomie qui sont mentionnés dans les dits diliciens. Il existe une symétrie entre l'élaboration de l'édit et la diffusion des leçons de santé institutionnelles dans le monde romain. L'application de l'édit uniquement dans les cas où une maladie ou un défaut a réduit la valeur de l'esclave démontre que les édiles étaient avant tout préoccupés par l'économie et le bon fonctionnement des marchés romains. Les recours croissants à la médecine comme mécanisme médico-légal dans le contexte de l'édit dilicien révèle l'étendue des interrelations entre le droit positif et les disciplines collaboratives, ainsi que la façon dont les forces extérieures à la jurisprudence ont orienté son évolution dans sa voie particulière et vice-versa. Merci beaucoup.